Chapitre 7. Comment William Doe employait à Paris le temps que Maître Picot perdait à Versailles. Dans la certitude où il était de retrouver William Doe le soir à Versailles, à la gare d'arrivée, Maître Picot avait cru pouvoir ne pas le surveiller pendant la journée. Toutefois, comme ces avares qui aiment à jeter de temps en temps un coup d'œil sur leur trésor pour s'assurer qu'il est toujours bien à sa place, comme ces gourmets qui inspectent volontiers d'avance la table où ils ne tarderont pas à s'asseoir, comme l'amant dont le bonheur est proche et qui se plaît à prendre du regard la possession de la femme aimée, de même, l'agent voulut revoir celui qu'il considérait déjà comme sa proie. Dans ce but, vers 7 heures, il s'en vint jeter un coup d'œil au rez-de-chaussée de Brébant. Ainsi que la veille, l'Américain était là, savourant un excellent dîner et lisant les journaux. « Parfait !» murmura Picot. « C'est un homme exact, d'habitude régulière. Ce soir, il arrivera à Versailles par le train convenu. » Et l'espion s'en fut enchanté de s'être donné cette nouvelle assurance que son plan ne pouvait échouer. Afin de ne pas se tromper de gare, il avait consulté un indicateur. Or, aucune erreur n'était possible. Le train qui arrive à Versailles à 9:10 est celui qui part de la gare Saint-Lazare. Si l'agent de la sûreté n'avait pas eu si grande confiance en lui-même, et s'il avait attendu William Doe à sa sortie du restaurant, peut-être aurait-il changé d'idée. Car, après avoir payé son addition, l'étranger disparut tout à coup, sans qu'on l'eût vu franchir la porte qui ouvre sur le boulevard. Plus prévoyant que Maître Picot, et ne laissant rien au hasard, l'Américain avait traversé le restaurant, monté au premier étage et suivi le couloir qui communique aussi à l'escalier de l'hôtel Saint-Phar. Une fois là, il n'avait plus eu qu'à descendre quelques marches pour gagner le boulevard par la grande porte de l'hôtel et à sauter dans une voiture de la station. En admettant que l'agent fût à son poste d'observation, William Doe était certain, grâce à ce détour, d'avoir échappé à toute surveillance. Mais l'intelligent Picot ne se doutait de rien de semblable. Et quelques heures plus tard, pendant qu'il se désespérait à Versailles de ne voir arriver ni l'un ni l'autre de ceux qui l'attendaient, l'étranger, qui avait quitté sa voiture place du Châtelet, se dirigeait tranquillement à pied vers la morgue en suivant le quai Napoléon. Une fois à l'extrémité du square qui s'étend derrière Notre-Dame, il s'arrêta pour inspecter les environs, autant du moins que lui permettait la nuit humide et sombre. Le quartier était absolument désert. Il fit sonner sa montre, il était 1 heure. Sûr de ne pas être observé, il suivit alors la grille du square et, traversant rapidement la chaussée, vint se blottir dans l'angle que forment la morgue et la pointe de l'île, là où existe la grande porte de gauche du lugubre monument. Il tombait une pluie fine et glaciale. Pour rester là à pareille heure, calme, attentif au moindre bruit, il fallait que William Doe fût doué d'une incroyable volonté ou poussé par un intérêt bien puissant. Après avoir jeté aux environs un dernier coup d'œil investigateur, il frappa la porte de la morgue avec la tête de sa canne. Un petit guichet de quelques pouces carrés s'étant ouvert, il entendit qu'on lui demandait à voix basse. « Est-ce vous ?»«
C'est moi, »
répondit-il. « Voici la somme promise. » Il tendait par le Judas un rouleau de 500 francs. Un instant de silence se fit. Le gardien s'assurait sans doute de la valeur du rouleau. « Entrez, » dit-il bientôt en entr'ouvrant la porte. William Doe disparut dans l'intérieur de la morgue. L'obscurité était si profonde qu'il dut marcher presque à tâtons pour ne pas se heurter aux objets divers. Voitures, civières, bières, qui encombraient le passage à découvert où le précédait Gabriel, passage défendu contre tout regard du côté du fleuve par une haute palissade à jalousie serrée. Ils arrivèrent enfin à une grande porte qu'ils franchirent et que le gardien ferma derrière lui. William Doe pressentit qu'il se trouvait dans cette salle des départs et des arrivées où, la veille, il avait vu photographier la victime de la rue Marlot. Il ne s'était pas trompé. Il la reconnut parfaitement lorsque Gabriel l'éclaira à l'aide d'un fanal qu'il était allé chercher derrière un cercueil. Le gardien fit à l'étranger signe de le suivre. Ils traversèrent alors le lavoir, la salle des couvre-corps, et arrivèrent dans la salle d'autopsie. « Verrez-vous assez clair comme cela ?» demanda Gabriel, en enlevant du fanal la chandelle qui y brûlait et en dirigeant les rayons vers le cadavre étendu sur la table de zinc. « Parfaitement, »
répondit William Doe en se penchant sur le corps mutilé. Mais il se redressa presque aussitôt, et, après avoir tiré de sa poche plusieurs instruments de chirurgie, il jeta un coup d'œil autour de lui. « Vous cherchez quelque chose ?» lui dit l'employé. « Oui, voici ce qu'il me faut. » Le visiteur nocturne venait de détacher de la muraille où il était suspendu à un clou un grand tablier taché de sang. C'était celui-même qui avait servi quelques heures auparavant au médecin légiste. Il le passa autour de son cou, le serra à sa taille et, relevant ses manches, se rapprocha de la table d'autopsie. Il examina d'abord la blessure de l'aine en se rendant compte avec son bistouri de la route qu'avait suivie l'arme homicide. Ce premier examen lui causa sans doute un certain étonnement, car il l'interrompit un instant pour réfléchir. Puis il passa à l'estomac du mort, qui était entrouvert, et il arriva à la blessure du cou, mais pour ne s'y arrêter qu'une seconde. « Est-ce que ce corps sera remis sous les yeux du médecin ?» demanda-t-il ensuite à Gabriel, qui suivait ses mouvements d'un œil hébété. « Non, monsieur, je ne crois pas, » répondit celui-ci. « Le permis d'inhumer arrivera sans doute demain matin. »« Donnez-moi un maillet, alors. »«
Un maillet? Pourquoi faire ?»«
Pour ouvrir la tête. Je vais examiner le cerveau, ce que le docteur a oublié de faire. »«
Mais monsieur, si on s'en aperçoit !»«
Et qui ça? Puisque c'est vous qui serez chargé demain de l'inhumation. » « D'ailleurs, soyez rassurés, il faudrait qu'on y regardât de fort près pour découvrir quelque chose. » Tout en disant ces mots, William Doe avait saisi le maillet que lui présentait le gardien, et il s'était armé d'une espèce de ciseau à froid qu'il avait tiré de sa poche. En moins de 5 minutes, en praticien habile, il mit à nu le cerveau du vieillard, et prenant lui-même la chandelle des mains de Gabriel, il se pencha sur le crâne béant dont il sonda soigneusement les moindres parties. C'était vraiment un spectacle horrible que celui qu'offraient ces deux hommes, seuls dans ce lieu lugubre. L'un, intelligent, distingué, interrogeant la mort pour lui arracher quelques mystérieux secrets. L'autre, commun, abruti, témoin muet de cette scène émouvante qui ne lui causait d'autre crainte que celle d'être surpris. L'étranger termina enfin son opération, et si habilement que, comme il l'avait promis au gardien de la morgue, on ne pouvait s'apercevoir au premier coup d'œil qu'on eût touché à la tête du mort. La boîte osseuse du crâne avait repris sa place. Les cheveux recouvraient les endroits où la peau avait été soulevée. Velpeau ou Nélaton n'aurait pas mieux fait. Lorsque l'opérateur se redressa, sa physionomie si grave exprimait une satisfaction évidente. « Est-ce que les vêtements de ce malheureux sont là ? » demanda-t-il. « Les voici, monsieur, » répondit Gabriel en désignant à son interlocuteur un paquet d'effets déposé sur la seconde table d'autopsie. Parmi ces objets, il se trouvait un paletot de drap dont William Doe examina attentivement la manche droite, examen après lequel il murmura. « C'est bien cela. Je ne m'étais pas trompé. »« Maintenant, dit-il, donnez-moi de l'eau. » Gabriel se hâta d'obéir. L'Américain se lava soigneusement les mains, se débarrassa du tablier de travail dont il avait couvert sa poitrine, remit tranquillement ses instruments de chirurgien dans leur boîte et cette boîte dans sa poche. Puis, en tendant à l'infidèle veilleur des morts un second rouleau de 500 francs, il lui dit « Vous avez tenu votre promesse, je tiens la mienne. Lorsque vous m'aurez reconduit jusqu'à la porte, nous serons quittes. Cependant, s'il vous arrivait quelque désagrément à la suite de cette visite, comptez sur moi. J'en serai informé et ne vous oublierai pas. Soyez donc sans crainte. » Pendant qu'il parlait ainsi avec son calme habituel, William Doe remettait ses gants et s'enveloppait dans son pardessus. Véritablement stupéfait de ce sang-froid dont il n'avait certes jamais eu d'exemple, malgré le milieu dans lequel il vivait, Gabriel ne trouvait pas un mot à répondre. Il se contenta de s'incliner en passant devant l'étranger pour lui montrer le chemin. Quelques secondes plus tard, celui-ci se trouvait hors de la morgue. William Doe s'était conduit dans toute cette affaire en homme habile, car en se laissant filer la veille, il n'avait eu d'autre but que de lancer son surveillant sur une fausse piste, ce qui devait lui permettre d'agir le jour suivant en toute liberté. Nous venons de voir qu'il avait complètement réussi. Pendant ce temps-là, Maître Picot cherchait en vain le sommeil sur le grabat de l'auberge où il s'était réfugié. Commençant à craindre d'avoir été joué, le pauvre agent se demandait comment le recevrait M. Mélin lorsqu'il lui apprendrait sa station inutile à Versailles.